Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, un petit mot rapide pour vous signaler que cet épisode n'est pas un épisode classique où on traite de l'actu, mais un épisode spécial où on se concentre sur un sujet très spécifique. Vous allez voir, c'est un sujet qui n'est pas forcément un sujet auquel on s'attendrait, mais j'espère qu'il va vous intéresser. C'est un domaine qu'il est bon d'aller explorer. Donc c'est un épisode spécial un petit peu comme ceux qu'on avait fait sur l'hygiène et la sécurité informatique à l'époque, ou la vie à Shenzhen, ou le spécial sur la blockchain. Donc c'est une chose qu'on fait de temps en temps. Et puis là, comme c'est le 5e épisode de ce mois de mai, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça. On met l'actu un petit peu en pause. Entre parenthèses, pour les patriotes, n'oubliez pas que de temps en temps, il y a 5 épisodes par mois, donc n'oubliez pas d'aller faire vos réglages, comme toujours, dans les paramètres de votre compte Patreon, si vous le souhaitez. Et on a donc cet épisode spécial. La semaine prochaine, il y aura la WWDC d'Apple, donc plein de news pour les Apple fanboys et pour énerver les anti-Apple. Donc on sera de retour dans une petite semaine avec l'actu. Mais pour le moment, voici cet épisode spécial sur... Bon, vous le savez, hein, c'est sur l'agriculture et la tech dans l'agriculture. J'espère que ça vous intéressera et à très vite.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un épisode très spécial qui ne va justement pas parler de l'actualité chaude de la tech, mais où on va aborder un sujet très spécifique et très spécial et dont je pense qu'il vous intéressera particulièrement. C'est le sujet de l'agriculture et de l'agriculture connectée. Et pour parler de tout ça, et de l'agriculture moderne, et de tous les aspects de l'agriculture, et pour parler de tout ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir, qui d'autre qu'un agriculteur, mais pas n'importe quel agriculteur. L'agriculteur d'aujourd'hui, c'est presque ton nom de super-héros, c'est Thierry Baillet qui se joint à nous. Comment ça va, Thierry ?
Ça va très bien, merci Patrick. Le temps est correct, j'allais dire. On a eu un peu de pluie, donc on est assez content.
Vous êtes
content. Ça se passe bien.
Très bien. Mais écoute, merci beaucoup Thierry de te joindre à nous. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs un petit peu quelques mots sur toi, histoire qu'ils te situent, qu'ils sachent un petit peu ce que tu fais?
Oui, alors donc je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais, à côté de la ville de Lens. Donc j'exploite une surface de 75 hectares que j'ai repris à mon père, j'allais dire de façon assez classique. Ça doit faire 12 générations au moins qu'on est agriculteur de père en fils, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des archives. Et donc je cultive de la betterave, de la pomme de terre, de la carotte pour l'industrie essentiellement, vu qu'on a un secteur industriel assez développé en Hauts-de-France, et puis un peu de céréales, et depuis quelques temps, une activité en bio, donc avec 4 autres collègues, donc une diversification bio, et aussi une activité de centre équestre, pension de chevaux, qu'on a développée quand je me suis installé il y a une vingtaine d'années maintenant, quoi.
D'accord, donc tu couvres quand même pas mal de domaines. Je parlais un petit peu de ton nom de super-héros d'agriculteur, d'agriculteur d'aujourd'hui. J'imagine que tous les agriculteurs ont plus ou moins à voir avec la tech aujourd'hui, on va en parler, la manière dont ça a évolué, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu t'y intéresses, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux applications de la tech dans ton domaine de professionnel ?
Alors, je pense que c'est un peu ma nature d'être curieux et puis de m'intéresser à tout ce qui est technologie. Déjà, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance que mon père m'achète un ordinateur. J'ai eu un Commodore 64 à l'âge de 9 ans. Donc,
ah, tu vois, là, tout de suite, ça va parler à certains auditeurs, effectivement.
Je pense. Ensuite, je suis passé à l'Amiga. Voilà, donc j'ai toujours été très attiré par l'informatique et la technologie. Pour autant, je ne suis pas programmeur du tout, mais j'aime bien tout ce qui est bricolage aussi. Voilà, je bricolais dans mon bureau régulièrement. Je pense qu'on peut me qualifier un peu d'agriculteur, comme certains le disent.
Ah, pas mal, pas mal. J'aime bien ce titre.
Voilà. Et donc, j'ai continué à m'intéresser à ça. Alors, bien sûr, dans l'application de l'agriculture, parce que c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire et de possibilités en agriculture. D'ailleurs, il y a énormément de start-up qui existent dans l'agricole, parce que justement, il y a des possibilités de capture de données, d'analyse, qui peuvent nous aider donc à progresser dans notre travail. Et c'est ce que je recherche aussi, tout en essayant de trouver aussi les applications qui sont pas gadgets, mais qui ont une réelle utilité voilà, pour l'agriculture. De toute façon, c'est celles qui fonctionnent, j'allais dire, et celles qui se sont développées ou qui se développeront à l'avenir.
Et donc, bah, tu tiens effectivement un site qui est le bien nommé agriculteur d'aujourd'hui.com, où tu fais pas mal de choses, mais il y a beaucoup de blogs et de j'ai l'impression que tu essayes un petit peu d'évangéliser la tech dans le monde de l'agriculture francophone ou française. J'ai perdu le fil de ma pensée. mais oui, effectivement, c'est un type de technologie et de tech qui n'est pas... peut-être que tu vas me contredire, mais ce n'est pas quel est le dernier iPhone qui est sorti, comment est-ce qu'on peut utiliser Google Home pour parler à notre tracteur. C'est des trucs qui sont un petit peu plus, entre guillemets, sérieux. C'est des applications professionnelles. Est-ce que c'est des trucs quand même qui font un petit peu vibrer ton cœur de geek ou c'est très... C'est très, je ne sais pas comment qualifier la chose, mais vraiment sérieux, quoi.
Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'en suis arrivé à communiquer. Alors, au départ, pour reprendre un peu l'histoire, j'ai commencé à communiquer il y a 5 ans sur YouTube pour expliquer le métier d'agriculteur, parce que j'ai mon fils qui s'était fait insulter de cutéreux, bouseux. J'en ai corps la boule au ventre quand j'en parle, voilà.
Ouais.
Et ça m'avait choqué, j'avais dit comment on peut expliquer qu'en réalité j'utilise des GPS RTK, on en reparlera après, des photos satellites dans mon activité courante, alors que les gens croient encore qu'on est en botte avec un béret et qu'on ne fait que tuer des box ou je ne sais quoi. Donc voilà, je voulais mettre quelque chose de vraiment réel devant l'image que parfois les gens se font de l'agriculture. De temps en temps, j'aime bien dire on n'est plus Martine à la ferme, c'est fini, quoi. Il faut essayer de voir un peu autrement. On est des entrepreneurs, on a des entreprises agricoles, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. On gagne notre vie en travaillant aussi, donc il faut qu'on ait une rentabilité sur l'exploitation. On a mille métiers à faire, mais voilà. Donc, et c'est vrai que les agriculteurs sont beaucoup plus connectés que ce qu'on pourrait le croire. Ne serait-ce que par nécessité, on va prendre un truc tout simple, simplement la météo. Voilà, les agriculteurs sont arrivés très vite sur Internet pour avoir des météos très précises parce que c'est le premier élément qui va faire que leur travail va pouvoir se faire ou pas, quoi. On est très dépendant du climat, des conditions agronomiques qu'on peut avoir autour de nous. Et donc, ça, c'est des notions qu'on doit prendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs connectés en moyenne que la moyenne des Français, quoi. Voilà, si on prend une base.
Ouais, les agriculteurs sont plus technophiles, peut-être, non seulement qu'on peut le penser, mais si on prend toute la population française, c'est tellement important pour bien faire leur travail qu'ils sont peut-être plus connectés que la moyenne des Français, comme tu le dis.
Oui, oui, ils sont plus connectés que la moyenne des Français. Ils ont plus de smartphones, ils utilisent plus, ordinateur c'est pareil. Alors pas forcément par goût au départ, mais par nécessité aussi, quoi, voilà, pour leurs besoins de travaux.
Bien sûr.
Tout au moins, après, ils découvrent aussi d'autres choses. Et bah, comme dans toute la population, il y en a qui sont plus connectés que d'autres, quoi. Et voilà.
Bien sûr. Bah, écoute, on va parler de tout ça et j'espère qu'on va pouvoir un petit peu faire découvrir à d'autres personnes, comme toi, tu as commencé à le faire il y a quelques années, bah, ce métier et comment il est technologique aujourd'hui. On va parler, bien sûr, d'agriculture bah, connectée, de plein de moyens de se connecter, bah, honnête, mais pas seulement pour l'agriculture elle-même. même pour la communication, les relations entre les agriculteurs, les relations avec les clients, etc. On va parler de plein de choses. Mais pour commencer, peut-être, fais-nous un petit topo rapide sur la manière dont la technologie, et peut-être que la technologie n'est plus le terme approprié, mais la modernité a fait évoluer l'agriculture en 2-3 minutes, hein, sur le 20e et le 21e siècle. Quel rôle ça a joué ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un bond énorme au XXe siècle. Alors il faut savoir qu'au début, donc dans les années 1900, on devait encore avoir à peu près 90% de la population qui était dans le monde rural, et on est arrivé à la fin de ce siècle avec seulement 10%. On a complètement inversé, je pense. Voilà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça ressemble à ça. Beaucoup d'entre nous, des auditeurs, je suppose, ont un grand-père, arrière-grand-père, voire au-delà, qui a été agriculteur à un temps donné, parce que pour nourrir la population, il fallait énormément de main-d'œuvre. Et donc, ça a été quelque chose de très important. Alors, on a eu la révolution, économique et technologique qui a fait que les industries ont commencé à avoir besoin de main-d'œuvre et ils sont sortis un peu du milieu agricole, donc pour aller dans les villes, tous ces gens-là. Et par contre, on a vu aussi, certainement plus après la guerre, donc 39-45, la technologie arrivait. Alors c'était tout simplement des tracteurs qui remplaçaient les chevaux. Moi, mon père a commencé, il est en 35, il a commencé sa carrière à travailler avec des chevaux, et puis il a continué donc avec des tracteurs. Donc ça, c'est arrivé suite un peu au détournement des usines après la guerre. C'est-à-dire que les usines qui ont construit des chars ont ensuite construit des tracteurs. On avait les structures, donc on a essayé de les utiliser. Un autre biais qui est arrivé, c'est qu'on avait créé des usines de produits chimiques pour la guerre, et ils ont été aussi détournés pour repartir sur des produits pesticides. Alors, je sais que c'est très controversé maintenant, l'utilisation de produits de ce type-là, mais il faut savoir que ça a permis... et ça permet encore de donner, aux gens maintenant une alimentation qui est relativement de qualité, qui est aussi en quantité. Voilà, on a fini les famines, quoi. On les connaissait encore au début du siècle ou au siècle précédent.
Bah justement, peut-être que c'est un petit détour, mais je peux te poser la question. On a effectivement, comme tu le dis, une image qui évolue, bien sûr, de la manière dont on utilise tous ces différents outils. Les pesticides sont effectivement controversés et l'agriculture bio est mise en avant. Sans parler de la controverse elle-même, parce qu'évidemment, on ne va pas résoudre ce problème, mais quel regard est-ce que vous portez, vous, agriculteur? Je suis sûr qu'il y a des opinions diverses, mais... vous portez sur ces choses-là. Est-ce que vous avez aussi chez vous, tu disais que vous commencez de l'agriculture bio également, mais quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces choses-là? Est-ce que c'est, à l'époque, un petit peu comme on voit la différence entre le pain fait en usine et le pain fait par l'artisan boulanger avec amour, il se lève à 4 heures du matin pour faire son pain le matin pour les gens qui vont venir. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux ou d'artificiel dans toutes ces choses? Ou est-ce que quand même, comme tu le dis, les gens ne se rendent pas compte de ce que serait l'agriculture sans ces pesticides et ces moyens modernes, même si, oui, aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir se permettre de se dire « j'aimerais bien de l'agriculture bio aussi dans certains cas ».
Oui, alors je pense, il faut, on oublie vite, l'humain oublie vite, je pense, les conditions que ses grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu avoir à un moment donné. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, à un moment donné, je suis obligé d'arrêter mon téléphone, ça va aller mieux.
C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu me disais que ton chien allait peut-être venir dire bonjour à un moment aussi. Donc,
peut-être aussi traverser la cour, parce que je suis juste à côté du bureau des écuries, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui passe. Ça fait partie des risques du direct, on va dire.
Il n'y a pas de souci.
Tout simplement pour rappeler que on oublie facilement les avantages qu'on a acquis. Récemment, je lisais un bouquin qui disait c'était mieux peut-être avant. Oui, c'était mieux peut-être avant, mais maintenant on est dans des maisons chauffées, on a de l'électricité, on se nourrit à sa faim, on a vraiment énormément d'avantages. Bon, on a trouvé d'autres problèmes, on a des problèmes, de nerfs, de tout ce qu'on veut, de stress, mais on a quand même gagné beaucoup j'allais dire, les besoins principaux sont quasiment couverts, quoi. Qui maintenant, alors je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, des gens qui meurent de faim, c'est, voilà, ça existe encore malheureusement, mais pour la plus grande partie de la population,
au moins en Occident, oui, on est.
Bah voilà, on n'a plus quasiment plus ces problèmes-là, quoi, sauf, j'allais dire, des cas marginaux un petit peu. Mais, et ça, on a oublié aussi que l'agriculture intensive, pour la nommer comme ça, a permis quand même de développer ça. Alors, il faut savoir que la France, avant les années 50, n'était pas autoproductrice, donc elle n'arrivait pas à produire. Autosuffisante, pardon. Elle n'arrivait pas à produire pour nourrir les Français. Et ça a été un défi de la faire évoluer, ce qui s'est fait progressivement. Et maintenant, on est exportateur de produits. Alors, voilà, on en est arrivé à une telle évolution qu'on revient un petit peu en arrière. Et maintenant, l'écologie passe devant, ce qui est très bien. Hein. Il faut respecter la nature. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc ça, je le conçois tout à fait.
Oui, il y a effectivement des ajustements. Mais je pense que, voilà. Enfin, oui, comme tu le dis, il ne faut pas non plus voir les choses, enfin, repartir dans l'excès inverse, quoi. Il y a eu quand même des...
Et on peut en parler un peu au niveau de la bio. C'est vrai que pour faire de la bio, je sais que, voilà, pratiquement, il faut revenir à de la main-d'œuvre plus manuelle. Voilà, on utilise moins de... On a beaucoup de technologies aussi, mais on n'en a pas encore assez pour pouvoir se passer, j'allais dire, du travail de l'homme. Bon, quelque part, c'est bien. Mais en même temps, c'est très astreignant, très compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. Et actuellement, je ne sais pas si tous les consommateurs seraient prêts à payer, même si c'est pas une grosse marge de différence, parce qu'en réalité, c'est plus, j'allais dire, une question de choix. Est-ce qu'on veut donner 10% de son revenu à sa consommation d'aliments, ou est-ce qu'on veut en donner 15 ou 20, voire 70, comme on le mettait il y a 70 ans pour pouvoir se nourrir, quoi. Voilà, on est passé sur des besoins différents. Bon, il faut qu'on régule et puis que chacun estime ce dont il a besoin et ce qu'il veut avec ce à quoi il veut se nourrir, quoi.
Bon, donc ça, c'était pour la partie révolution agricole, on va dire. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé depuis les années 2000. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué. Tu parlais dans notre préparation de l'émission d'agriculture de précision, de guidage par GPS, de photos satellites, de robots pour ce qui est de la traite ou de l'alimentation des bêtes. Encore une fois, en quelques minutes, comment est-ce que ça a évolué pour arriver à la situation dans laquelle on est à peu près aujourd'hui ?
Alors oui, c'est vrai que le 21e siècle a vu l'arrivée. Bon, on avait réussi à produire, j'allais dire, en quantité. On avait réussi à passer ce cap. On avait des machines, des tracteurs assez évolués. Et il fallait... la technologie a permis d'apporter d'autres avantages. Alors, on va parler du GPS. C'est vrai que ça a été pas mal utilisé et c'est très utilisé en agricole. Alors, ce qu'on appelle le RTK, j'ai plus le terme en anglais, mais donc c'est du GPS de précision, donc qui est corrigé tout simplement par une borne qui se trouve au sol. Et bon, on sait que le GPS peut naviguer sur 3 mètres, je pense, à peu près de large. Et nous, s'il nous faut une précision de travail de 2 cm, il faut qu'il y ait une correction. Voilà. Ah oui, on travaille à 2 cm de précision, voilà.
Tu veux dire que les tracteurs doivent semer, par exemple, à 2 cm de précision ?
Ben, c'est-à-dire que oui, c'est pas une obligation. Hein. Avant, on guidait le tracteur à la main et puis on arrivait à, j'allais dire, à semer droit. Enfin, moi, j'ai jamais su semer droit, donc après, ça dépend des agriculteurs. Mais à partir du jour où j'ai eu le GPS, le système RTK, les agriculteurs voisins ont dit ça y est, il a appris à conduire. Donc voilà, j'ai commencé à semer droit à ce moment-là. C'était comme ça. Donc, alors, ça dépend de l'usage qu'on a. Si c'est pour semer du blé, concrètement, on n'a pas besoin de... Voilà, on peut recroiser un petit peu, c'est pas gênant. Par contre, si on sème des cultures plus précises, des légumes par exemple, voire des betteraves, le fait de pouvoir semer droit au départ et puis de semer à des distances bien précises, ça évite de faire des recroisements. Alors, ce qu'on appelle un recroisement, c'est chevaucher, par exemple, deux lignes l'une à côté de l'autre, ce qui va entraîner plus de consommation de produits, parce qu'au lieu de faire 30 lignes sur la largeur, on va faire 31 ou 32, donc on va consommer plus de produits. On va consommer...
Excuse-moi, je t'arrête un instant. Oui. Quand tu dis 30 lignes sur la largeur, on va en passer à 31 ou 32. Moi, j'ai presque l'impression que les auditeurs se diraient... Ouais, enfin bon, bon, je vais pas parler pour les auditeurs, je vais parler pour moi. Je me dirais, bon, 31, 32, ça va, quoi, c'est pas la fin du monde. Mais ça fait quand même, sur toute une exploitation, je m'en étais pas vraiment forcément rendu compte, mais ça compte, quoi. Au final, si tu fais 30 lignes, il faut faire 30 lignes, pas 32, quoi.
Voilà, si jamais on en fait un peu plus, bah forcément, c'est du coût de produit en plus, éventuellement, ça peut être de la semence, c'est du temps de travail, c'est du carburant. Donc voilà, c'est
Donc le
ce...
GPS aide vraiment à limiter, à rogner à la marge finalement, ou je ne sais pas si on peut dire que c'est rogner,
Oui,
mais...
c'est... Voilà, après, ce n'est pas le seul avantage. C'est un des premiers avantages qui peut être utilisé. On indique entre 3 et 5% de gains en moyenne d'intrant global. On a moins de
Qu'est-ce que tu
recroisement
appelles
aussi
les
parce que...
intrants?
Alors, les intrants, c'est tout ce qu'on utilise pour faire, comment, pour faire une culture, c'est-à-dire de la semence. Ça va être de l'engrais, ça va être du produit, ça va être éventuellement du travail. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un intrant. C'est ce qui rentre dans la production d'une culture.
D'accord.
Voilà. Et donc, ensuite, ce GPS va nous permettre aussi d'éviter en bout de champ de recroiser aussi. Donc, on va encore gagner un petit peu. Il va nous permettre aussi d'avoir moins de fatigue parce que lorsque on ne conduit pas le tracteur, on ne le guide pas, on n'est pas concentré donc sur une ligne précise. À la fin d'une journée, on dit oui, ça peut paraître aussi ridicule, mais à la fin d'une journée, être concentré sur une ligne, c'est comme si on était dans. Enfin, j'imagine quelqu'un qui est dans l'autoroute dans des bouchons, il va être plus fatigué que si la route est vide et qu'il n'y a personne et que ça va tout seul, quoi. Voilà, on a un peu le même problème, quoi.
Du coup, ça veut dire que le GPS, c'est le tracteur qui est guidé tout seul. Donc toi, tu es
Oui.
au volant pour le cas où il y a un truc qui va pas bien et peut-être pour tourner, mais c'est le tracteur se conduit tout seul. Il est, bon, pas autonome, mais enfin, il est en cruise control sur la ligne droite. C'est ça
Voilà, c'est ça.
le
Il est en cruise
guidage?
control sur la ligne droite. Il y a pas de. Il existe des systèmes qui pourraient être entièrement automatisés, mais c'est pas encore développé chez nous. D'ailleurs, il y a des problèmes d'autorisation aussi. Ça va arriver peut-être avec les voitures plus vite, donc on aura peut-être des autorisations là-dessus. Mais pour l'instant, de toute façon, pour contrôler le travail quelque part, il faut encore un humain, quoi. Il y a pas de doute. Par contre,
D'accord.
on facilite le travail. Si on a ce même GPS sur une moissonneuse-batteuse, au lieu d'avoir un écart de 50 cm sur la barre de coupe, on va prendre les 50 cm en plus. Donc ça veut dire qu'à la fin d'une saison, on aura gagné une demi-journée de moisson aussi. Donc c'est toujours du gain de temps. Alors c'est vrai que ça peut paraître peu, mais c'est toujours un avantage. Après, il y a cette histoire de fatigue, hein, qui est quand même importante. Certains agriculteurs travaillent 12, 15 heures parfois, 18 par jour à certaines périodes pour réaliser certains travaux, pour des semis par exemple. Donc là, ça compte au niveau fatigue, c'est intéressant. Et puis après, on va pouvoir les utiliser aussi derrière. Si on a un semis droit, on va repasser par exemple une bideuse, donc un outil qui va venir se rapprocher de la plante le plus près possible pour pouvoir gratter le sol et enlever les mauvaises herbes. Et donc si on a une trace droite, l'outil derrière va avoir une trace droite aussi et sera plus facile à guider.
D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a à peu près une idée de ce que ça a donné depuis. Et ça, là, on parle plus ou moins du début des années 2000, hein, donc c'est
Voilà.
relativement récent. Avant ça, on n'avait pas tous ces outils.
Non, non.
Tu parlais également de photos satellites, etc. On va peut-être pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on va arriver maintenant qu'on a mangé nos petits pois et qu'on a bien les bases. On va peut-être pouvoir parler. On va arriver aux frites et on va parler de ce qui nous intéresse vraiment nous geeks que nous sommes. Les questions d'agriculture vraiment moderne et connectée, comme tu l'as appelé. Donc lançons-nous. En quoi peut-être. Un petit mot quand même avant ça sur le fait que un agriculteur, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est vraiment un entrepreneur. On a énormément de choses à gérer. Tu me parlais de comptabilité, évidemment, de questions réglementaires, la nutrition, la surveillance, le commerce, la mécanique, l'électricité, etc. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. En quoi est-ce que la tech peut aider pour tout ça? Tu parlais de l'utilisation des smartphones, par exemple. Enfin, je te laisse expliquer. Nous qui sommes geeks, qui utilisons nos smartphones, qui nous posons des questions sur Facebook et sur l'informatique, comment on avait appelé ça, la technologie portée et l'Internet des objets, en quoi est-ce que tout ça s'applique à ton métier à toi?
Oui, alors c'est vrai qu'on a un métier qui est très varié, très complexe, mais à la fois très intéressant. Moi, c'est un métier que j'adore parce que du 1er janvier au 31 décembre, je ne fais quasiment jamais la même chose d'un jour à l'autre. Dans mes journées, je ne fais pas non plus la même chose. Alors c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi complexe parce qu'il faut apprendre et connaître beaucoup de choses. Alors donc il faut qu'on se renseigne, donc on a tout l'aspect renseignement. Il faut qu'on surveille ces cultures. il faut qu'on calcule, par exemple, des doses d'engrais, parce que bon, quand on parle d'utilisation d'engrais, nous, notre objectif, c'est d'utiliser le minimum possible, parce que ça a un coût, hein, concrètement, c'est économique.
Ben, c'est un intrant, évidemment, tu vois. Maintenant, je connais les termes, donc
exactement,
je vais me la péter un peu.
Tu vas pouvoir t'installer bientôt, agriculteur, je pense. et donc, vraiment utiliser le minimum de produits pour avoir le maximum de résultats. Alors, si pendant un moment donné, on poussait, j'allais dire, d'avoir le meilleur résultat, maintenant, on est en train d'essayer de serrer au maximum pour avoir la plus grande précision. Il faut savoir que voilà, une plante ou un animal, pour pousser, c'est comme un être humain, il y a toujours un facteur limitant. Donc le but du jeu, c'est de, j'allais dire, d'arriver au taquet du facteur limitant et puis de pouvoir obtenir, j'allais dire, le meilleur potentiel. Voilà, nous, notre objectif, c'est pas forcément d'avoir le meilleur rendement, mais celui qui va nous coûter le moins cher et qui va nous rapporter le plus. À la fin de l'année, c'est ce qui nous restera dans notre caisse. Donc, tous ces outils qui arrivent progressivement vont nous permettre justement, suite aux connaissances qu'on a pu avoir sur la plante ou sur l'animal, je parlais plutôt sur la plante parce que je m'y connais un peu plus là-dessus, mais on va réussir à savoir les besoins exacts, que ce soit en eau par exemple, que ce soit donc aussi en engrais, que ce soit en produits de traitement, et utiliser vraiment les doses minimums pour arriver à ce que la plante puisse s'épanouir correctement et puis donner le maximum de ses fruits. Il faudra surveiller aussi les maladies, parce que les plantes ne sont pas indemnes de maladies, c'est pour ça aussi qu'on traite.
Quand tu parles d'alimentation et de besoins en eau, etc., ça veut dire que vous mettez, techniquement, parlons un petit peu technique, vous mettez des capteurs dans le sol, tous les quelques mètres ou tous les quelques centaines de mètres, pour voir le taux d'humidité ou les besoins d'irrigation. Ça se passe comment concrètement ?
Alors oui, je vais donner un exemple. Donc, je suis utilisateur depuis 3 ans d'une solution qui est développée par une start-up qui a permis donc d'utiliser un système qui était ancien, qui était connu. Hein. Donc tout simplement des capteurs tensiométriques que l'on place dans le sol à 30 ou 60 cm de profondeur. Et qui vont permettre de déterminer l'humidité du sol. Alors, en fonction de ça, ben, on va renvoyer les données sur une plateforme. Les données vont être calculées suivant un modèle, un algorithme qui a déjà été créé déjà dans le passé et qui sait que quand un type de sol précis, parce qu'il faut rentrer beaucoup de données quand même, un type de sol précis qui contient autant de pourcents d'argile, autant de pourcents de calcaire, de sable, voilà, si il émet une donnée qui donne X, je ne sais pas, ça veut dire qu'il va être à tel niveau d'humidité dans le sol. Voilà, le pourcentage d'humidité dans le sol. Et en fonction de la plante qu'on a au-dessus, de la variété, de l'espèce, on va savoir à partir de quel moment elle risque d'être en stress hydrique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à un moment donné à dire ben, « si j'ai pas d'eau, moi j'arrête de pousser et voir, je commence à dépérir ». Et c'est donc ce type de capteur qui va nous permettre de dire précisément ben, à ce moment-là, il faut enclencher l'irrigation, il faut en mettre telle quantité pour que la plante se sente, j'allais dire, bien et puisse repartir.
Donc, mais voilà. Du coup, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'il y a de moderne là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de technologie au sens où on l'entend depuis les smartphones ? Parce que, comme tu dis, les capteurs tensiométriques, ils existent depuis longtemps. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient connectés et qu'ils génèrent des résultats avec ces modèles ?
C'est le temps gagné aussi par rapport au conseil. Avant, il fallait aller mettre ces capteurs, aller mesurer donc, ça. Il fallait rentrer les données sur un tableau, faire le calcul, et puis on avait le résultat. Le problème, c'est que aller dans chaque parcelle pour aller faire ça, bon, même si on n'en a qu'une ou deux, ben, ça va nous prendre 1 heure ou 2 heures. On va devoir refaire les calculs. Et puis, ben, on est des humains, au bout d'un moment, si c'est contraignant et que, j'allais dire, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour le faire, on va dire, bah, c'est tout, je continue à l'empirique, je mets mon doigt en l'air, je vérifie la température de l'air et puis j'y vais. Quoi.
Et du coup, ils sont connectés, vous avez quoi ? Vous avez des réseaux Wi-Fi qui sont avec des bornes de relais sur les parcelles, ou comment vous faites
alors,
pour connecter
tout ça ? Alors, je ne connais pas les termes, mais ça utilise des débits basse fréquence.
Ah. Donc, c'est des types de réseaux spécifiques
Ouais, c'est des réseaux, j'ai plus le nom, c'est pas Skyfox, mais je pense pas. Bon, c'est un nom dans ce genre-là.
D'accord.
Donc, Donc c'est un réseau
Donc
bien
c'est une solution
particulier.
propriétaire, quoi, qui connecte tous
Voilà.
ces appareils.
Et donc ça permet, j'allais dire, au capteur d'avoir des batteries relativement légères, parce qu'on va envoyer tous les 10 minutes ou un quart d'heure simplement une petite donnée. Donc c'est des capteurs qui ont une autonomie de 2, 3 ans, voire 5 ans. Donc ça c'est déjà un avantage, parce qu'il faut que ce soit pas trop compliqué à gérer non plus. Ces données-là vont être gérées donc par une plateforme, et c'est la plateforme qui va faire entièrement le calcul et renvoyer, alors soit sur l'ordinateur, soit éventuellement au smartphone, en disant: alerte, d'ici 2 jours, il faut commencer à arroser parce que votre plante va être en stress hydrique.
Ah,
Donc c'est...
t'as quand même des prévisions à 2 jours et tu reçois genre l'alerte sur ton smartphone comme tu recevrais
Tout à
une
fait.
alerte Facebook, quelqu'un a liké votre post, quoi.
Tout à fait, tout à fait. On a ces possibilités-là. Après, on a aussi un tableau de bord qu'on peut aller voir. En général, un agriculteur connecté, quand il sève le matin, il va checker toutes ces plateformes. Donc, il va voir l'humidité dans ses sols, il va voir la température, il va voir la météo, il va voir ses comptes en banque. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. On va essayer de savoir exactement ce qui se passe dans notre champ pour dire... Ben, maintenant, je vais prévoir mon intervention. On dit être entrepreneur, c'est prévoir, voilà. Donc, il faut absolument pouvoir prévoir au plus, plutôt que d'attendre que le moment où on voit la plante flétrir pour pouvoir l'intervenir, parce que sinon, il est trop tard, quoi.
D'accord. Mais du coup, moi, en tant que bon technophile, je me dis, mais du coup, si tu as la donnée du fait qu'il faut commencer à arroser, pourquoi est-ce que tu connectes pas aussi tes petits arroseurs automatiques, tu vois, et que tu lances l'arrosage tout seul, et du coup, toi, tu n'as rien à faire, tu es devant ta télé à jouer sur ta Xbox, quoi.
Oui, alors ça peut être le cas, hein, éventuellement dans des serres ou sur des réseaux d'irrigation qui sont montés en fixe. Par contre, nous, on utilise des systèmes d'irrigation en canon qui arrosent, et donc on doit déplacer le canon et le mettre en place, quoi. Donc voilà.
Mais pourquoi, du coup, est-ce que ça veut dire que dans certaines exploitations, certains types d'exploitations, c'est pas possible d'utiliser des trucs en fixe ou...
Alors, c'est selon les cultures, c'est un peu complexe. Il y a d'abord une question de coût. Faut savoir qu'une installation fixe, nous on en a acheté par exemple en goutte à goutte pour l'irrigation des oignons en bio. Concrètement, on a un coût qui est 5 à 10 fois supérieur. Voilà, grosso modo, on avait investi 100 000 euros, je crois, pour 6 hectares d'installation. Faut imaginer. Voilà, alors qu'un enrouleur qui va pouvoir faire une trentaine d'hectares va coûter 30 à 40 000 euros, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes notions. Il faut avoir une valeur ajoutée très élevée pour pouvoir se permettre ce genre d'installation. Donc, selon, voilà, le type de culture, on ne va pas utiliser forcément les mêmes outils, mais c'est tout à fait possible de connecter et puis de pouvoir lancer et automatiser ça. Nous, on n'en est pas là actuellement, mais ça peut très bien se faire. Il y a énormément de serres, par exemple, où il y a quelque part de la valeur ajoutée aussi, et où il faut suivre de façon beaucoup plus précise, où là, tous les capteurs sont bien présents pour ouvrir et fermer les volets afin de maintenir la température, pour arroser quand il faut. Et là, tout est automatisé. C'est plus facile aussi de le faire, entre guillemets, dans un local fermé qu'en extérieur, quoi. On a toujours les contraintes agronomiques et puis de météo qui nous tombent dessus, quoi. Donc,
D'accord.
Voilà.
Tu me parlais aussi de carnet connecté qui va te permettre de garder une mémoire des travaux qui ont été faits. Je suis curieux de savoir ce que c'est, ça. Et puis aussi de sites de vente et par Internet, de vente et de chat par Internet. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toutes ces choses-là?
Oui, alors on parlait des intrants, donc pour la production, par exemple, des végétaux ou des animaux. Il y a un autre critère qui est important, c'est l'utilisation du matériel. Le coût du matériel, en général, c'est ce qui est le plus élevé dans les charges d'une exploitation agricole. Donc, le but du jeu, c'est de à la fois savoir ce que ça nous a coûté éventuellement, pour essayer de les réduire au maximum. Alors, on arrive parfois, j'allais dire, à optimiser ça en se regroupant. Ça, c'est les systèmes de CUMA qui se sont regroupés, donc coopératives d'utilisation de matériel agricole. Hein, je pense qu'on a créé Uber il y a 75 ans en préférant l'usage à la propriété. Ça existait juste après la guerre. Les agriculteurs se sont groupés à plusieurs pour acheter pas une voiture, mais un tracteur. Et c'est resté. Nous, on a une coopérative comme ça juste à côté de chez nous. Moi, je suis adhérent, j'étais président de cette structure. Et donc, on a 15 tracteurs qui sont à 40 agriculteurs, quoi. Donc, on a, j'allais dire, voilà.
Et comment tu fais quand il y en a un qui fait mal son créneau et qui endommage le truc?
Bon,
Est-ce que...
On a des mécanos aussi, on a un atelier, on a toute une structure qui fonctionne avec. Et puis, c'est sûr qu'il faut apprendre à travailler avec les autres. Hein. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il faut respecter les autres beaucoup pour pouvoir travailler comme ça. Mais c'est une richesse parce que ça nous fait faire des économies mécaniques, mais c'est aussi une richesse de rencontres et de discussions avec d'autres agriculteurs. Bon, on sort un peu du sujet, quoi. Mais
oui, voilà, non, mais je comprends. Ouais. D'accord.
C'est, voilà. Donc, et par exemple, pour cette structure-là qui possède 80 matériels différents, les enregistrements se font encore par carnet. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque utilisation, vu qu'on doit payer en fonction de ce qu'on utilise, il faut enregistrer. J'ai fait autant d'hectares, j'ai fait autant d'heures avec ce tracteur-là. Et donc, on enregistre, puis on doit reprendre ces enregistrements pour les refacturer après. Donc, ça, c'est...
Donc, c'est-à-dire que... À l'époque, les carnets, c'était effectivement un petit carnet sur lequel tu écrivais au stylo ou au crayon. Mm-hmm. Et maintenant, les carnets connectés, c'est des applications, j'imagine, sur smartphone, par exemple, ou ce genre de trucs.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est encore des choses qui sont en développement parce que c'était pas. Je pense que voilà, techniquement, c'est une espèce de tracker qui va pouvoir suivre avec un GPS le suivi. Par contre, il y a beaucoup d'implémentations annexes parce que si on utilise tel ou tel outil, ça va pas forcément être les mêmes types de travaux. Il faut parfois capter s'il y a eu des bénages, si c'est une remorque par exemple, pour pouvoir le facturer derrière. Donc voilà, c'est des choses qui sont en développement, mais tout à fait, on va passer du carnet et papier à l'enregistrement, ce qui va permettre d'enregistrer toutes les interventions qui sont faites dans mes parcelles. Je vais savoir exactement le nombre d'heures de tracteurs que j'ai passé pour telle culture, telle production. Moi, ça va me permettre, déjà pour la coopérative, de facturer facilement et de plus avoir ce problème-là de perte, d'oubli parfois, ou d'erreur d'écriture, de relecture. Dieu sait si on en a eu parfois des compliqués, parce que c'est dur de relire parfois quelqu'un qui a écrit mal ou qui avait les doigts avec plein de terre parce que il a dû travailler ou débourrer l'engin. Donc... Ça, c'est tout des contraintes qu'on peut éliminer grâce à ce système-là.
Et du coup, ce que je comprends d'après ce que tu dis, c'est que ça te fournit finalement aussi un petit peu d'analytics de ton travail, quoi. C'est-à-dire que tu gardes les traces et tu peux savoir et comprendre ensuite la manière dont tu as travaillé, ce que tu as fait, ce que tu as trop fait, ce que tu as moins fait, etc., quoi.
Voilà, c'est là qu'on arrive tout doucement dans ce qu'on appelle bien entendu le big data. C'est vrai qu'à un moment donné, cette notion m'était un peu me dépassait un petit peu, mais quand on a toutes ces données-là, alors quand on cumule l'ensemble, par exemple des capteurs météo qu'on peut avoir, parce qu'on a aussi des pluviomètres bien entendu, on a aussi les capteurs d'humidité du sol, on a les carnets connectés. Si on arrive à rassembler tout cet ensemble-là, c'est pas encore opérationnel pour l'instant, mais ça va devenir dans l'avenir, je pense. Toutes ces données-là vont nous permettre de mieux connaître notre façon de faire, notre travail, de mieux l'analyser. Alors, bien sûr, ces données-là sont aussi une certaine richesse. Je sais que Google en Amérique a bien investi dans l'agriculture et puis dans ces données-là parce que ça les intéresse pour pouvoir éventuellement vendre des produits, savoir tout ça. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, d'ailleurs, il y a une réelle réflexion sur la propriété de données dans l'agriculture actuellement. On a aussi besoin beaucoup de ces données-là pour pouvoir justement améliorer nos pratiques, mieux connaître nos coûts de production, parce que actuellement, c'est compliqué de connaître un coût de production, savoir que tel tracteur a été autant de temps dans telle culture. On le sait globalement sur l'exploitation, mais par culture, c'est très compliqué. Et donc, tous ces systèmes-là vont nous permettre de rassembler ensemble, de pouvoir nous donner un tableau de bord qui va être beaucoup plus concret avec les temps de travaux, les interventions, pouvoir prévoir éventuellement les investissements matériels dont on aura besoin, éventuellement dire pour finir le tracteur je n'utilise pas beaucoup, je vais pouvoir éventuellement en racheter un moins puissant ou alors dans la coopérative en avoir un de moins plutôt qu'un de plus. Et donc d'essayer d'optimiser au maximum notre production, quoi.
C'est marrant parce que tout ce dont tu parles là, c'est effectivement des trucs qui sont des applications concrètes des technologies, mais il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment tech, quoi. Et du coup, j'ai presque envie de te demander, et je vais le faire parce que je suis audacieux, est-ce qu'il y a encore des agriculteurs qui sont déconnectés de tout ça, sans mauvais jeu de mots, mais qui font les trucs, peut-être pas à la main, mais qui font les trucs avec leur tracteur en y allant au pifomètre sans GPS, ou qui n'utilisent pas les carnets connectés, ou qui... Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans, pas forcément comme on le faisait il y a 100 ans, mais... ou est-ce que vraiment, comme tu disais... tu disais, il y en a qui sont plus ou moins connectés, mais... Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire encore ce travail sans être un minimum connecté ?
Alors, ça commence à devenir compliqué. Alors, il existe encore une génération qui travaille, je dirais, à l'ancienne. Alors, ils obtiennent les informations de part souvent des conseillers techniques. Voilà, souvent, un agriculteur est lié plus ou moins à son fournisseur, sa coopérative, son négoce, qui va pouvoir lui indiquer, j'allais dire, les meilleures interventions. Voilà, les capteurs connectés, c'est quelque chose qui est en développement. On n'est pas encore sur une utilisation de masse. Et je ne sais pas quel pourcentage d'agriculteurs utilisent ça, mais pour l'instant, ça doit ressembler à 2 ou 3% maximum, quoi.
Ah oui,
On
d'accord,
est...
on est quand
Ouais,
même
non, on est...
assez.
Voilà,
Et donc,
ça
j'imagine que
reste quand même limité, quoi.
c'est le type de travail que tu fais, toi, d'évangélisation et avec ta communication sur le net, où tu essayes justement de dire aux gens, bah voilà, ce type de produit, ça vous permet de faire ça, de faire ça, de gagner du temps ou de l'argent sur tel et tel type d'opération. Et c'est ça que dont tu essayes de parler, je pense.
Oui, c'est ça, oui, j'essaye de montrer un peu. Après, il faut que chacun y voit son intérêt, parce que la contrepartie de toutes ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes, c'est qu'elles ont un coût, forcément, hein. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi si la rentabilité est là. Investir dans des capteurs, ça peut être voilà, 1 500, 2 000 euros. Alors, parfois, on les récupère très vite, hein. Il suffit d'avoir 2 ou 3 interventions qui ont été mieux placées pour pouvoir avoir un résultat qui sera positif. Le problème, c'est qu'on le sait qu'après coup, et on le sait, j'allais dire, à peine. On a du mal à mesurer, j'allais dire, le bienfait de ce qu'on a pu faire, voilà, au niveau du résultat, parce qu'on est, voilà, on ne travaille pas dans une industrie. Dans une industrie, on va dire, bah, si on utilise telle machine, on va gagner 3 secondes pour chaque pièce, donc on va avoir un rendement qui va être supérieur. En agriculture, vous avez beau mettre tout ce que vous pouvez, j'allais dire, au niveau technique, si jamais le soleil ne veut pas luire au bon moment, ou si alors il brûle, tout est gâché, quoi. On arrive au facteur limitant. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout maîtriser. Donc,
D'accord.
c'est là où il faut bien voir l'intérêt. Donc, certains agriculteurs ne sont pas prêts à s'investir dans ce type de technologie. Certains n'en ressentent pas le besoin non plus, hein. Sur certaines productions, on ne va pas investir des sommes énormes pour pouvoir savoir si on va produire un peu plus de blé ou pas, parce que la valeur ajoutée derrière n'y est pas. Donc,
D'accord, je comprends bien.
voilà, il faut relativiser. C'est...
Ouais,
Voilà.
d'accord. Tu parlais aussi de la connexion entre les différents acteurs par Internet. J'imagine qu'il y a une certaine époque, bah, il fallait, enfin, à vrai dire, je sais même pas, il fallait aller au salon de l'agriculture et puis prendre les contacts des fournisseurs et des clients et ensuite les rappeler par téléphone et envoyer des fax. Aujourd'hui, évidemment, tout ça se fait par Internet. Ça a dû être un changement hyper important. Est-ce que ça a transformé aussi ton métier, votre secteur?
Alors oui, c'est vrai que les possibilités de connexion plus rapides, avant c'est pareil, hein, comme tout le monde en avait le téléphone, mais à la maison. Donc dans la journée, il fallait bien organiser sa journée pour ne pas se faire coincer aussi. Donc ne
Ah oui,
serait-ce que
j'y
ça,
pensais même pas, oui, effectivement.
le téléphone portable est très vite arrivé chez les agriculteurs comme une nécessité, quoi. Et j'allais dire, même les agriculteurs là les moins technophiles.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sont arrivés relativement rapidement un téléphone portable, ne serait-ce que, ben voilà, pour pouvoir communiquer. Vous êtes dans un champ, il vous manque un sac pour pouvoir finir votre culture, ou vous devez appeler votre voisin pour venir vous donner un coup de main. Donc ça, c'est très important.
Donc les agriculteurs ont adopté le téléphone portable, là encore, peut-être plus rapidement que le reste de la population.
Je
Quand ils
suppose,
le
oui, par la
pouvaient, quand
nécessité
ils
de
le
travail,
pouvaient
quoi.
par, avec le réseau, mais oui.
Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que la limitation, bah, du téléphone fixe, forcément, c'était une contrainte, hein. On a développé aussi les fax. Moi, je me rappelle, en 92, mon père a créé l'ACUMA, la première commande qui avait été faite, c'était une commande de fax pour justement pouvoir communiquer entre l'ACUMA et puis les adhérents, et puis entre les adhérents éventuellement. Donc, Voilà, c'était quelque chose de sympa. On pouvait envoyer une feuille de papier, une facture, un récapitulatif, un compte rendu. Donc ça, c'était une avancée aussi, hein. On n'a pas eu de Telex, c'était pas chez nous. Voilà. Après, il y a eu l'arrivée aussi du Minitel qui a permis de créer certains sites agricoles, les météos entre autres, hein, qui ont été fort utilisés par les agriculteurs. Et bien entendu, l'arrivée d'Internet. Qui bouleverse quand même pas mal l'organisation, dans le sens où maintenant toutes les données dont on a besoin, voilà, les météos, les sites de renseignement, les firmes phyto, les labos d'analyse, tous les sites de conseil aussi qui peuvent exister pour optimiser, j'allais dire, son travail, maintenant on y a accès directement, voilà, que ce soit par email ou alors tout simplement directement sur un site qui peut exister, quoi. Donc ça a été une grosse évolution aussi de nos pratiques, quoi.
Et ça, bon, dans ce domaine, je pense que l'évolution a été comparable à ce qu'on a pu connaître dans d'autres domaines.
Tout à fait.
C'est vrai que j'y pensais pas. On oublie tellement vite, mais c'est vrai qu'il fut, il fut une époque où, pour trouver quelqu'un à contacter, c'était les pages jaunes ou l'appeler les gens qu'on connaissait. Ouais.
Tout à fait. Maintenant, on est passé à Twitter ou.
C'est ça. Mais quand même, ça a dû fluidifier les relations comme partout ailleurs, fluidifier dans le sens où c'est plus facile de trouver un bon prix pour avoir un fournisseur qui va te fournir ce dont tu as besoin, les intrants. Non, pas les intrants. Les intrants, c'est tout. Mais les semis, par exemple. Non, les semences dont tu as besoin. Mais du coup aussi, les clients vont pouvoir comparer les prix beaucoup plus facilement et la concurrence doit devenir encore plus féroce, quoi.
Alors oui et non. Alors il faut savoir que l'agriculture a été basée sur le développement aussi de coopératives et de négoces. Et les agriculteurs, quelque part, sont encore actuellement très... attachés, j'allais dire, à l'aspect humain, hein, l'aspect relationnel qu'ils peuvent avoir avec leurs commerciaux, leurs technico-commerciaux, et avec les structures en général avec lesquelles ils travaillent, que ce soit des coopératives, voilà, ou des négoces. Il y a souvent un fort attachement, et il y a une forme de confiance qui existe aussi, parfois, j'allais dire, à tort, malheureusement, parce que certaines structures, je ne vais pas dire qu'elles en abusent, mais quand il n'y a pas trop de concurrence, on regarde un petit peu moins.
Ça me surprend ce que tu dis parce que on a quand même beaucoup de l'image de la grande distribution justement qui abuse de sa position et qui paye très mal les fournisseurs finaux, c'est-à-dire les agriculteurs. J'aurais pensé que c'était, je sais pas, peut-être à cause ou grâce à Internet que ce genre de choses est possible, mais t'as l'air de dire que les channels, les canaux de commerciaux ne changent pas trop et n'ont pas changé à cause d'Internet. Est-ce que ça devrait justement, est-ce que Internet devrait aider à débloquer cette situation? Est-ce que c'est un bénéfice justement qu'on n'utilise pas trop Internet parce que les gens se font confiance et se vendent au bon prix? Ça me surprend.
Alors, il est certain que l'arrivée d'Internet a permis l'arrivée de nouveaux opérateurs un peu différents. Certains sites spécialisés vendaient simplement de l'outillage ou des choses relativement simples, de l'équipement, mais ils sont passés à l'achat de céréales éventuellement. Ils sont passés aussi à la vente d'engrais, donc de semences. Donc, on a des concurrences quand même qui sont plus élevées. Quand je disais qu'il y a encore une certaine confiance, je pense qu'il reste quand même pas loin de 90% des agriculteurs qui ne vont pas forcément aller regarder beaucoup ailleurs que ce qu'ils ont l'habitude de faire, alors par confort, par sécurité, parce qu'ils ont le conseil derrière aussi du technicien qui va pouvoir les aider à réaliser correctement tous leurs travaux. Donc c'est un espèce de package, mais qui est en train de se casser parce que justement, il y a des nouvelles lois qui sortent et des nouvelles règles qui vont être mises en place qui vont séparer le conseil et la vente. Donc là, il y a des structures comme les grandes coopératives qui sont un peu en difficulté là-dessus parce que quelque part la vente se faisait parce qu'il y avait un bon conseil. Je pense que tout humain est content d'aller voir plutôt que d'acheter. Bon, on achète facilement sur Amazon, mais pour certains produits très particuliers, on va plutôt aller voir un conseiller, quelqu'un qu'on connaît chez un magasin spécialisé qui va vous donner le bon conseil, qui t'a payé un peu plus cher. Mais il y a cet aspect-là qui est très important. Et dans l'aspect professionnel agricole, je pense qu'on le retrouve aussi parce que c'est une habitude. Mais c'est vrai que ces nouvelles plateformes vont commencer un peu à casser ce système en proposant des prix. Et puis, si au début, on y jette un petit œil, on va dire, mais si je peux récupérer 5 € la tonne sur mes 100 tonnes, bah, ça ne sera pas perdu, ça sera toujours ça. Et donc, je pense que progressivement, on va faire évoluer un peu cette, cette mentalité-là. Quoi.
Mais du coup, moi, je pensais plus simplement à la vente. C'est-à-dire qu'une fois que tu as produit tes trucs, tu vends en tant qu'agriculteur, ça doit être intéressant d'aller chercher sur une plateforme qui va te connecter à des gens bah, de ta région, de ton pays, ou peut-être même... On va dire raisonnablement, on peut imaginer le continent, voire même le monde entier. Peut-être que tu vas trouver des gens qui vont avoir besoin de ta production et peut-être en faisant quelque chose de plus spécifique, qui seraient prêts à payer un peu plus. C'est pas des choses qui se passent, ça ?
Alors si ça se passe, mais sur des marchés qui sont assez spécifiques et des marchés de niche. Faut bien comprendre que, comme moi, quand je suis producteur, quand je produis des carottes...
T'es pas le seul à produire des carottes, on va dire.
Je suis pas le seul à produire des carottes. Par contre, il y a très peu d'acheteurs, faut se le rappeler. Souvent, on est quand même lié par contrat à des industries, parce que on peut pas produire sans savoir à qui on va vendre. Ça serait quand même ça serait quand même complexe. Certains le font, mais il y a toujours un risque. Hein. Si le marché s'effondre, ben voilà, on est coincé. Et puis, ce sont des gros volumes qu'on n'a pas forcément rendu accessible, j'allais dire, à la population locale. Ça marche très bien, ces histoires de vente, et ça a été vraiment très développé, que ce soit en local, par les systèmes de plateforme. Hein. On en a quelques-unes qui existent, qui fonctionnent bien, de vente de paniers de légumes. Voilà, mais ça reste sur des productions plutôt maraîchères, plutôt spécifiques. Mais quand on est sur des gros volumes de céréales ou de carottes ou de betteraves. Betteraves, c'est pas compliqué. On a une coopérative, donc on n'a pas possibilité, j'allais dire, de vendre à quelqu'un d'autre. En céréales, on a certes plusieurs opérateurs différents, mais c'est quand même assez limité, quoi. J'allais dire, dans un secteur proche, parce qu'il faut pas oublier que le produit en lui-même, ça reste une denrée périssable et qui est coûteuse à transporter, étant donné que c'est du gros volume à des petits prix, on va pas forcément chercher à l'envoyer trop loin, et donc le nombre d'opérateurs est quand même limité. Et donc il y a une certaine concurrence qui existe, c'est sûr, mais c'est plus facile à gérer, par exemple, pour des produits comme la céréale qui peut se stocker, que bon, une pomme de terre, ça peut se stocker, certes, mais si on n'a pas vendu avant d'avoir produit, ça devient très compliqué parce qu'on prend des gros risques. Quoi.
Et justement, tu évoquais les sites de panier. Moi, j'ai utilisé la ruche qui dit oui pendant un moment, j'imagine que tu connais. Ça, c'est oui, ça a l'air effectivement d'être quand même pour des petites exploitations, des trucs très spécifiques, ça demande tellement de...
C'est plus du maraîchage, oui.
D'accord. Bon, parlons un petit peu de l'avenir, du coup. Il y a des choses qui sont en train d'être développées. Tu me parlais de robots qui vont aller désherber ou surveiller les cultures. Les insectes qui vont être utilisés pour l'alimentation
animale, oui.
Des animaux. Enfin, ce genre de choses, ça semble pas très tech, mais visiblement, ça rentre dans cette catégorie quand même. Il y a du e-learning, du crowdfunding aussi. Là, c'est des termes qu'on va beaucoup plus comprendre, nous, fans de tech. Est-ce que tu peux nous parler, oui, de cette petite ouverture vers l'avenir ?
Oui, alors quand on prend un peu l'évolution de l'agriculture, on parlait tout à l'heure de cartes satellites. Donc les cartes satellites ont commencé à se créer, donc pour pouvoir, optimiser aussi la surveillance des cultures, savoir où il y avait des maladies, où il fallait mettre des engrais. Ensuite, on est passé un peu à des choses qui se rapprochent du sol de plus en plus. On est au niveau des drones, par exemple, qu'on utilise régulièrement pour faire des cartographies aussi de parcelles afin d'optimiser ses apports d'engrais, par exemple. On a de la modulation là-dessus avec des pesées embarquées. Et puis on arrive
Tu vas trop vite.
Je
vais utiliser trop vite. Des drones, effectivement, c'est plus efficace que les photosatellites. Et tu dis de la pesée embarquée, c'est quoi la pesée embarquée ? Explique-nous l'utilisation des drones, en fait.
Voilà, alors que ce soit donc avec une carte ou avec un drone, on va prendre une photo. Alors l'avantage du drone, c'est une question de rapidité et proximité. Une carte satellite, le satellite, il y a des systèmes qui existent depuis très longtemps, Farmstar, qui sont utilisés. Donc, mais quand le satellite passe, il ne passe pas très souvent au-dessus, et s'il y a une couverture nuageuse, on est un peu coincé. Donc ça fonctionne, mais il faut le prévoir bien à l'avance. Maintenant, pour avoir encore plus de précision, on a des systèmes de drones qui sont plutôt des ailes volantes que des drones quadricoptères, qui vont passer au-dessus des cultures avec des capteurs avec quatre caméras qui vont prendre vert, jaune, rouge, bleu, et puis créer une carte qui va permettre de dire à tel endroit il y a beaucoup de végétal et à cet endroit-là il n'y en a pas beaucoup. Et donc de faire une carte de simulation qu'on va pouvoir renvoyer dans son distributeur d'engrais. Moi, c'est ce que je fais, j'ai une carte que je remets par clé USB, et dans la carte, on va dire, à tel endroit, je vais mettre autant d'unités d'azote parce qu'il y a peu de végétation, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. À d'autres endroits, il y a une belle végétation, la culture va en profiter, il faut que j'en mette plus. Voilà, et donc...
Donc, tu trimbales par clé USB les données de ton drone, de ton aile volante.
Oui, alors, ça passe encore par une plateforme qui doit traduire, entre guillemets, le langage de l'aile volante. Mmh. Mais ensuite, sur la plateforme que j'ai, je peux avoir la carte que je vais renvoyer. Voilà, après, c'est une question de connexion. Je pense que demain, on pourra faire la ligne directe sans connexion. D'accord, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, je remets ma carte tout simplement dans mon distributeur d'engrais. Et donc, lui, il a une pesée en continu, c'est-à-dire que lorsque je mets de l'engrais dedans, bah, il pèse. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, il continue à peser. Et il sait exactement combien il met à tel endroit. Et donc, on a vraiment une précision là au kilo près ou à 10 kilos près qui permet là aussi de faire des économies et puis d'optimiser au mieux, au niveau végétal.
Et puis, pas trop en mettre, quoi.
De pas trop en mettre, voilà. D'en mettre là où il faut, comme il faut. Mmh. Notre but, c'est vraiment d'optimiser. Si c'est pour l'envoyer dans la nappe phréatique, ça ne nous intéresse pas. Hein. Voilà, concrètement, on préfère garder cet argent-là et le laisser dans notre portefeuille. Voilà, donc c'est vraiment d'optimiser. Hein. Non, mais bon, on dit parfois que les agriculteurs sont pollueurs, mais il faut savoir qu'ils sont aussi économes en général, voire radins pour certains. Tout simplement parce qu'on a, voilà, on roule pas forcément sur l'or, on a un métier sur lequel il faut travailler précisément. Donc voilà, on évite de dépenser trop. Donc ces technologies-là peuvent nous y aider. Et donc quand on parlait d'évolution, c'est vrai que les drones nous ont permis de nous rapprocher. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir dire, on va désherber uniquement à l'endroit où il y a la mauvaise herbe, ça ne sert à rien de désherber partout, clairement. Donc dans ce cas-là, on peut avoir un robot qui est posé sur le sol, sur roue, hein, s'il y en a qui sont en développement. Là, on est plutôt dans le développement, ce n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Et on va pouvoir, le robot a une caméra, il va pouvoir détecter et faire la différence entre une betterave et puis une mauvaise herbe, et donc aller traiter uniquement la mauvaise herbe. Donc là, ça va nous permettre de diminuer l'utilisation de produits, donc polluer moins, faire des économies, c'est toujours ce que cherche l'agriculteur, et puis pouvoir le faire automatiquement, quoi. Donc ça, c'est des robots qui existent en développement, et il y en existe d'autres qui ont des systèmes de caméra aussi, mais qui eux ont des systèmes mécaniques qui vont aller détruire la mauvaise herbe, soit en tournant carrément autour de la plante. Hein. Il y a des systèmes de robots qui tournent autour des salades, donc qui repèrent la salade, et donc ils vont tourner autour pour pouvoir bien nettoyer tout ce qu'il y a autour pour éviter qu'il y ait une mauvaise herbe qui vienne pousser au-dessus et puis lui faire de l'ombre, ou lui prendre son eau ou son nutriment. Et voilà, donc ça, c'est des choses...
Mais du coup, ça se fait comment, le désherbement, quand on n'a pas la possibilité d'avoir ces technologies c'est chimique pour tuer les mauvaises herbes, vous y allez à la main?
Oui, c'est chimique. Alors, c'est chimique pour tuer les mauvaises herbes quand on est dans le conventionnel. Ça peut être en bio, à la main, lorsqu'on n'a pas l'utilisation de certains produits. Donc voilà, c'est vrai que les robots seront plus vite rentables, à mon avis, en agriculture biologique, parce que tout simplement, c'est là où il y a le plus de main-d'œuvre. Pour l'instant, en agriculture conventionnelle, on n'est pas encore limité à ça. Bon, demain, il faut savoir qu'on va nous limiter de plus en plus dans l'usage des produits. On sait concrètement, il faut nous laisser le temps justement de trouver ces technologies-là et les développer pour pouvoir justement arriver à répondre à cette attente sociétale qui est importante, mais qui pour l'instant est un peu en avance par rapport à ce que nous on sait faire.
C'est possible de faire, oui. Oui, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui est encore en développement en tech
Alors, c'est vrai qu'il y a, on parlait tout à l'heure du beurre, il y a des plateformes qui existent, d'échange de matériel, qui proposent par exemple de dire, si vous avez un matériel, vous pouvez éventuellement le proposer à location à d'autres. Donc, c'est des choses qui pouvaient se faire avant, hein, entre voisins. Disons que maintenant, ces technologies donc, de communication permettent de dépasser les stades du lieu et puis du problème de communication. Et donc, il y a ce type de plateforme qui peut exister et permettre de faire des échanges, de favoriser le dialogue entre les agriculteurs. Il y en existe aussi, bien entendu, sur des échanges de techniques, comme des forums, bien entendu. Bon, ça, on n'est plus dans ces choses-là, mais de plus en plus, on essaye d'avoir aussi, on voit le développement de plateformes qui permettent de mettre en relation des agriculteurs pour des types d'échanges un peu différents sur des besoins particuliers, des éleveurs par rapport à du fourrage, et ce qui se faisait plus difficilement avant parce que le site n'était pas forcément au point, quoi.
Mais du coup, est-ce que ça ne met pas en danger, ou je ne sais pas, mais est-ce que ça ne rend pas inutile les coopératives, ce genre de site?
Alors non, parce que alors nous on s'est posé la question parce que voilà, je suis aussi responsable de la Fédération des coopératives de matériel agricole, donc des Hauts-de-France. Mais en réalité, ces plateformes-là vont permettre de créer l'échange. Par contre, les structures en elles-mêmes qui font vivre, j'allais dire une bonne entente, et puis le besoin juridique parfois d'avoir des choses calées et puis signées, hein, parce qu'on va pas uniquement se taper dans la main pour pouvoir avoir un résultat, fait qu'il faut quand même encore des structures et des relations humaine dans ce système-là. Par contre, ces systèmes vont permettre de mettre en relation des agriculteurs entre eux, qui vont peut-être, à l'inverse, devenir coopérateurs ensemble pour investir dans du matériel à l'avenir. Donc, je le prends un peu dans le sens inverse.
Et d'accord.
Pour moi, tout ce qui crée le lien va pas forcément détruire les structures qui existent. Et quelque part, si la structure n'a plus raison d'être parce qu'on en a plus besoin, bah, qu'elle n'existe plus, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Donc, oui.
C'est pas quelque chose qui te fait peur non plus. C'est...
Ah non, pas du tout, non. Si, je veux dire, faut pas garder les structures parce qu'on a besoin de structures. L'utilisateur final, pour moi, l'agriculteur, c'est celui qui doit avoir le bénéfice du résultat, c'est tout. Le reste, entre guillemets, n'a que peu d'importance.
Alors, tu parlais aussi de e-learning, de crowdfunding. Il y a des agriculteurs qui se font crowdfunder des trucs. Je comprends pas très bien comment ça rentre dans le schmilblick, là.
Alors oui, il existe des plateformes spécifiques. Alors, si je me trompe pas, il y a Mimosa qui existe, il en existe d'autres. Parce que des agriculteurs veulent développer un projet, ils n'ont pas forcément un financement par la banque. Certains agriculteurs, on parle plus de petites structures ou des structures qui ont un projet un peu décalé par rapport à, j'allais dire, ce que voient les banques habituellement. Faut savoir que, ben voilà, les banques à un moment donné financent pas non plus toujours tout ce qu'on veut. J'allais dire, un agriculteur qui s'installe, qui veut se mettre dans le légume. Dans un secteur et qui dit bah, tiens, je lance une opération de crowdfunding, vous mettez autant d'argent sur la table et puis je vous fournirai l'année prochaine voilà, des paniers pour autant de temps. Voilà, ça peut être un mode de deal comme ça. Ça peut être aussi tout simplement un urbain qui voit un projet intéressant sur l'agriculture et qui se dit tiens, moi j'ai un petit peu d'argent de côté, je veux bien le mettre pour financer quelque chose qui me plaît. Ça, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui peut s'y intéresser et dire je veux aider ce jeune à s'installer pour pouvoir développer tel type de production que je trouve dans le sens de ce qui me plaît. Donc,
mais c'est tellement local. Comment est-ce que la personne ou l'agriculteur qui a ce projet réussit à se connecter aux gens? Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on va arriver au sujet suivant qui est les réseaux sociaux. Est-ce que ça passe par Twitter, Facebook et tu renvoies sur la plateforme en question et tu essayes de fédérer des gens très localement ou...
Alors, c'est pas forcément local, justement, c'est un peu l'intérêt de la toile, c'est de dire j'ai un projet qui correspond à une attente, je veux développer, je vais prendre le cas d'un vigneron par exemple qui veut développer une vigne bio, mais pour lequel il lui faut quelques temps de mise en place. Si vous êtes amateur de vin de ce type et puis que vous dites tiens, c'est un projet qui m'intéresse, vous pouvez dire je peux pourquoi pas financer, que ce soit à fond perdu ou alors éventuellement dans l'espoir d'un retour de quelque chose, mais en disant j'ai envie d'aider cette personne à développer ce type de production parce qu'elle correspond à mes attentes, à mes envies d'évolution de la société et de l'agriculture. Donc, pourquoi pas utiliser ça, et ça peut se faire à longue distance. Ça peut être aussi aider, pourquoi pas, un agriculteur dans les pays du Sud, du Maghreb, qui voudrait développer quelque chose et pour lequel on lui trouve une cause. Là, on est plus sur l'aspect parfois innovant, parfois tout simplement vouloir faire un don, ou alors pourquoi pas développer un agriculteur qui se dit « Tiens, moi, je veux mettre à... » on parlait d'insectes tout à l'heure, mais à élever des insectes pour pouvoir l'utiliser en alimentation, bah pourquoi pas déposer un dossier sur une plateforme de crowdfunding un peu spécialisée dans l'agricole. Après, j'ai pas tous les domaines qui sont utilisés là-dedans, mais
oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour un vigneron, enfin pour du vin, forcément ça parle et il peut y avoir des spécialistes. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer pour un agriculteur qui veut faire des betteraves bio. Faut vraiment qu'il trouve son public. Mais peut-être qu'il y a des gens qui effectivement sont intéressés par ce type d'initiative pour le développement dans d'autres pays. Ça peut effectivement permettre à des gens de financer des choses qui les intéressent ou qu'ils veulent soutenir, Et ça aurait effectivement pas été possible sans la désintermédiation du net. Quoi.
Tu disais tout simplement betterave bio, par exemple, ce sont des filières au niveau du sucre qui n'ont pas beaucoup de développement. Il existe de la canne à sucre en bio. Par contre, en betterave sucrière, ça n'existe pas. Il n'existe quasiment pas d'installations qui sont capables de les traiter. Voilà, justement, pourquoi pas dire à un agriculteur, dit, tiens, moi, je vais recréer une petite sucrerie pour mes betteraves bio. Vous êtes intéressé par manger du sucre bio, ben, pourquoi vous ne développeriez pas un investissement dans ce type d'installation? C'est pas idiot du tout comme idée.
D'accord. Ben, on peut imaginer même, par exemple, des restaurants de qualité qui veulent se fournir en produits dont ils savent d'où ils viennent.
Tout à fait.
Peut-être que ce genre de choses peut... D'accord.
Bah ça se crée de plus en plus aussi. Hein. On n'a pas trop parlé des plateformes de commerce, voilà. Mais c'est vrai que les plateformes de panier, on a parlé de la ruche qui dit oui, il existe beaucoup d'autres types de plateformes qui mettent en connexion des agriculteurs et puis des urbains ou des consommateurs, tout simplement, qui veulent retrouver du local, pas forcément du bio, mais des produits locaux qui sont produits près de chez eux, dont ils peuvent vérifier la qualité éventuellement. Qui veulent toucher un petit peu. Il y a une partie de la population qui s'intéresse à ça. Et donc, ces plateformes aussi mettre tout simplement en contact. Il suffit de chercher, je cherche des paniers bio dans mon secteur. Une plateforme va pouvoir vous mettre en relation avec un producteur ou un site de vente ou un regroupement, une coopérative, voilà, qui va pouvoir vous proposer ce que vous cherchez, quoi.
Et je reviens à cette question que je t'ai déjà posée, en fait, mais dans ce contexte, est-ce que les agriculteurs du pays sont au courant de ce genre d'initiative? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils ont une attitude, on va dire, volontaire par rapport à ce genre de truc? Ou alors est-ce que c'est quand même, pour la plupart des gens, beaucoup de minutie d'aller regarder sur ces domaines qu'ils ne connaissent pas vraiment, sur Internet, sur le fonctionnement? Enfin, je dis ça, c'est peut-être une sorte de préjudice que j'applique encore, mais... Est-ce que c'est trop de prise de tête et qu'ils n'ont pas envie de mettre les mains dans ce cambouis virtuel parce qu'ils ont déjà les mains dans le cambouis et dans la terre en réel, quoi? Je suis curieux de savoir comment l'attitude qu'ils ont par rapport à tous ces trucs.
Oui, alors moi je vais prendre un exemple que je connais bien vu que c'est le mien. Il y a quelques années, on m'a proposé des terres pour cultiver en bio. C'était il y a 7 ou 8 ans. On a une commune, un maire, donc je suis sur la commune de Los Angeles. Le maire est connu parce qu'il est très écolo, mais pour moi dans le bon sens, c'est pas péjoratif. Et il veut du pragmatisme, donc il a dit à un moment donné, il a pu reprendre une exploitation d'une douzaine d'hectares. Je veux mettre des terres à disposition des agriculteurs qui veulent se lancer dans la bio. Concrètement, moi, à cette époque-là, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes agriculteur, que vous avez déjà beaucoup de travail, que vous faites plutôt des productions type industrielles, de la pomme de terre, de la carotte, de la betterave, que vous avez des contrats et que ça fonctionne, aller rechercher, j'allais dire, des difficultés, parce que la production bio est quand même très technique, aller rechercher des difficultés en plus et se donner encore plus de travail, à un moment donné, tout le monde n'est pas prêt à faire des changements. Voilà. C'est comme si on me dit, ben oui, mais pourquoi vous passez pas tous à la bio? C'est comme si on demandait à tous les chauffeurs de taxi de repasser au pouce-pouce, quoi. À un moment donné, certains adorent faire du vélo ou bien de la marche à pied, mais tout le monde n'en est pas non seulement capable, n'en a pas les capacités techniques, et puis ça demande énormément de changements. C'est un peu ce qui est difficile à faire comprendre parfois à la population. Je vais redonner un autre exemple. Un hectare d'oignons bio demande 600 heures de travail, un hectare d'oignons conventionnels demande 15 heures de travail.
Genre de proportion.
Ah, c'est, oui, ça, voilà. Bon, dans l'oignon, on est dans l'extrême parce que ça demande vraiment énormément de travail.
D'accord,
je suis d'accord. Mais c'est toujours, y a toujours un décuple de 5 à 10 fois. Donc, il faut comprendre que quand on a une exploitation, ou alors il faudrait embaucher 10 personnes, mais si on embauche 10 personnes, il faut les suivre. Voilà, donc il y a toute une remise en question qui est vraiment très compliquée, quoi. C'est comme si on demandait à un constructeur d'avion tout à coup de construire des bateaux du jour au lendemain.
C'est pas facile.
Il faut changer toutes ces structures, quoi. Mais voilà.
Mais du coup, là, on parle vraiment de l'attitude presque sociétale, mais il y a aussi le danger de se voir dépassé parce qu'on n'a pas su prendre le train en marche qui est à prendre en compte, surtout quand la situation est. J'ai pas l'impression que. Comment dire ? J'ai pas l'impression d'avoir le même son de cloche venant de toi que je l'ai en général dans, je sais pas si c'est les médias ou les gens qu'on entend le plus, mais les agriculteurs ont l'air de dire qu'ils sont souvent en grande difficulté. Toi, t'as l'air de dire que oui, c'est pas évident, mais on n'est pas dans une situation qui nous pousse à aller chercher autre chose, parce que là, ce qu'on fait, ça fonctionne quand même plus ou moins bien. Mais est-ce qu'on n'a pas justement ce danger de se voir complètement dépassé ? Tu avais l'air de dire que tu faisais du coup maintenant aussi du bio, donc peut-être que donc, tu t'y voilà, es mis c'est plus tard.
Donc mais... je m'y suis mis un peu plus tard, donc c'est vrai que dans mon évolution, voilà, à un moment donné j'ai dit oui mais mon système commence à devenir compliqué, les prix ont baissé, les contrats c'était pas forcément évident parce que la grande distribution j'allais dire comprime les industries compriment ce qui reste, c'est-à-dire les agriculteurs, et donc c'est compliqué quoi, on a des marges qui sont quand même relativement minimes. Donc je me suis posé une question, je me suis dit est-ce qu'il ne faut pas que je me remette en cause? Et donc je me suis dit bah, tiens, cette possibilité-là qui nous a été offerte à l'époque par la commune, avec d'autres collègues, on s'est mis à plusieurs, dans ce cas-là on s'est organisé ensemble parce qu'on a dit tout seul ça va être compliqué, on a dit ok, on se lance et on y va. Donc on y est parti et c'est comme ça que je suis rentré progressivement en bio et je convertis maintenant tous les ans. J'ai un objectif dans 5 ans d'avoir converti une bonne partie de l'exploitation. Donc j'ai changé mon avis parce que c'est vrai que le paradigme a changé aussi, parce que c'est vrai que l'agriculture a beaucoup de difficultés. Alors quand on parle du lait, quand on parle de toutes les productions industrielles, certains s'en sortent bien. Voilà, c'est certain qu'il y a des productions qui fonctionnent encore, mais il y a quand même une compression depuis quelque temps qui est très très difficile à vivre. Et donc, les agriculteurs réfléchissent à des changements. Bon, par contre, de là arriver à changer complètement et à tout se passer en bio quelque part, il faudrait pas, parce qu'on noirait le marché et puis on se retrouverait dans le même problème à côté. Mais
tu mets pas tous tes œufs dans le même panier petit à petit, quoi.
Voilà, mais il faut y aller progressivement. Bon, moi, c'est le pari que j'ai pris avec des collègues en disant, il faut qu'on s'y intègre, qu'on voit, on a testé, parce que ça prend plus de temps, parce que c'est plus technique, parce qu'on change son système.
Mais du coup, est-ce que la tech peut t'aider à faciliter un petit peu la chose par rapport à ce que tu disais c'était il y a 7 ans qu'on t'avait proposé cette première possibilité. Est-ce que depuis, les choses ont un petit peu évolué pour faciliter les exploitations bio? Ou est-ce que c'est pas vraiment rentré en ligne de compte?
Ça rentre un peu en ligne de compte. On n'est pas encore, j'allais dire, dans des assistances qui sont suffisantes pour pouvoir se dire tiens, ça y est, je peux passer du jour au lendemain en bio et puis ça va aller tout seul. Non, on a des évolutions, on a des matériels qui nous permettent de mieux pratiquer, mais c'est pas forcément de la haute technologie. On reste encore sur une partie manuelle. Bon, voilà, il y a ces histoires de robots qui arrivent tout doucement, qui, à mon avis, vont pouvoir permettre de faciliter les choses.
Donc il y a quelque chose à l'horizon, quoi.
Voilà. Oui. Moi, là, ce matin, concrètement, on a été remettre en route. Moi, j'ai été remettre en route avec des collègues. On est à 14 personnes actuellement à désherber dans les champs d'oignons. Donc, tous les matins, de 6h, enfin, de 7h à 13h, voilà, il y a deux postes. Et ces personnes-là doivent, à la main, voilà, alors sur un lit de désherbage. Alors, si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet, vous tapez lit de désherbage ou bed weeder. C'est tout simplement une espèce de soucoupe volante, donc une grande tente avec des roues. C'est déplacé par l'électricité. Il y a des panneaux solaires au-dessus. Et donc, on a des personnes qui sont allongées sur le ventre et puis qui vont désherber petit à petit toutes les mauvaises herbes. Mais voilà,
ah
ça
oui,
reste...
non, mais c'est impressionnant, effectivement.
Ça reste tout à fait manuel. Bon, on a un peu amélioré les choses avec un meilleur confort, voilà. Mais ça reste techniquement très simple, hein, c'est pas de la haute technologie. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est très compliqué à développer. Il faut gérer, bien entendu, l'humain. Voilà, gérer 14 personnes tous les matins, faut les suivre aussi, il faut être avec eux, il faut les accompagner, donc c'est pas évident.
Je tiens à dire que quand on cherche sur Internet lit de désherbage, le premier lien vers lequel je tombe, j'ai testé avec le mode incognito de Google sur Chrome, c'est le lien vers ta vidéo. Donc, bien joué.
C'est bien, tant mieux. Au moins, j'ai permis de développer ça. Non, mais voilà, ça donne une idée un peu. C'est vrai que c'est une image originale quand on regarde. C'est vrai, sympa.
D'accord.
Pour aller voir d'autres vidéos.
D'accord. Bon, bon, je pense qu'on comprend un petit peu le contexte de tout ça. On va conclure peut-être avec le dernier sujet qui est celui de la communication et des réseaux sociaux. Tu me disais que Twitter est quand même pas mal utilisé. Alors toi, tu utilises YouTube pour communiquer, mais il y a aussi Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et même Snapchat.
Oui.
Comment est-ce que c'est utilisé dans cette industrie du coup ?
Alors, il y a deux contextes. Je vais dire, il y a le dialogue entre les agriculteurs. Alors, Facebook, voilà, peut être utilisé, par exemple, plutôt pour montrer. Il existe des pages spécifiques. Hein, il y a des fans de matériel agricole. Il y a beaucoup de sites là-dessus. Et donc, voilà, dès qu'on met un tracteur sur, là-dessus, il y a certains fans qui vont adorer ça. Donc voilà, il y a une forme
de
communication.
Excuse-moi, tu peux répéter ? J'ai pas bien compris. Il y a des fans de tracteurs qui vont aller admirer les tracteurs. Remarque, pourquoi pas ? Il y a bien des fans
de caisses d'ordinateur. Voilà, donc on a des fans de matériel agricole, donc là il y a des pages spécifiques, il y a des espèces de groupes qui existent bien entendu, des forums. Il y a de la communication qui se fait un peu comme moi je le fais sur YouTube. On est plus d'une dizaine maintenant d'agriculteurs qui communiquent sur notre métier en expliquant ce qu'on fait, voilà, que ce soit dans l'élevage, dans les cultures. On a quelques chaînes qui ont pas mal de vues aussi là-dessus parce que les gens cherchent à savoir un peu comment ça se passe réellement. Donc ça c'est ce qui se développe. Bien entendu, on utilise aussi Instagram, Snapchat, moi un petit peu Insta pour essayer d'expliquer ce que je fais au quotidien. Voilà, il y a des jeunes qui nous suivent pour voir un peu ce que je fais, qui aiment bien me suivre. Bon, c'est un peu l'aspect star, si on veut, du système dans une
échelle. L'agriculteur star, je comprends bien. Ouais.
Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on va sur un salon, quand on est youtubeur, de temps en temps, on se fait arrêter parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait. On communique sur l'agriculture, donc ils pensent que c'est positif, donc c'est sympa. Et puis, il y a tout cet aspect communication vers le grand public qui est important. Et puis, il y a toute la communication en interne entre les agriculteurs. Alors, pour développer, différentes choses. Alors, il existe des groupes, bien entendu. Alors, quand je parlais de Twitter, c'est vrai que Twitter est très utilisé. Il y a un réseau sur Twitter qui fonctionne bien en agricole. Et qui se permet de s'envoyer des infos sur des manifestations qui vont arriver, sur des nouvelles technologies qui sont sorties, sur une nouvelle analyse. Donc il y a beaucoup de communication un peu comme ça qui se fait en direct et puis entre personnes. Moi, ce que j'adore dans Twitter, c'est que éventuellement, si vous avez quelqu'un qui est connecté avec vous, vous pouvez le contacter sans avoir à chercher ailleurs, vu que vous pouvez lui envoyer un message. Donc ça, c'est un mode de contact qui est très pratique aussi. On peut aller discuter avec quelqu'un. Bon, moi, je l'utilise peu, si ce n'est que pour développer mes vidéos, mais en même temps, on ne peut pas tout faire dans la vie.
Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que les agriculteurs sont des gens comme les autres. C'est incroyable, ça. J'aurais jamais pensé.
Et certainement aussi, quand on parle de communication, nous on est, moi je suis sur Viber avec d'autres collègues, on a des groupes, il y en a qui sont sur
WhatsApp ou
systèmes, WhatsApp, bien entendu, on l'utilise, tout simplement pour aller plus vite pour communiquer, et puis cette partie, relationnelle a été redéveloppée encore. Je reprends l'historique, nous on avait des CBI dans notre acteur avant, maintenant on est passé à WhatsApp, quoi.
D'accord. Et du coup, pour conclure, la grande révolution tech des 10 dernières années, ou un petit peu plus maintenant, c'était les smartphones. Tu disais que vous aviez des téléphones portables très vite. Les smartphones, est-ce que ça a été accueilli dans le monde de l'agriculture comme « Waouh, putain, mais c'est trop fort, je peux faire ci et ça grâce à mon smartphone, j'en veux un tout de suite » ou est-ce qu'il a quand même fallu attendre que les usages s'installent vraiment avant que les gens n'adoptent et laissent tomber leur Nokia 3310 ? Comment ça a été accueilli, ce truc ?
Je pense qu'il y a une partie de geeks qui s'y est mis plus facilement et puis d'autres qui ont découvert un peu l'utilisation au fur et à mesure en fonction des besoins. Ouais. Je pense que c'est plus le besoin.
D'accord, c'est le besoin qui a mené le truc, mais il y avait quand même les agriculteurs geeks qui se sont jetés sur l'iPhone ou les premiers Android quand ils sont arrivés.
Ah oui, moi je me rappelle pour mon cas, j'ai investi dans un Palm, si je ne me trompe pas, c'était en 2002, donc on n'était pas encore au smartphone, on avait encore le téléphone et puis le Palm à côté, mais tout simplement pour pouvoir enregistrer mes interventions et faire ça. Alors je pense que j'ai été dans les premiers à le faire, mais d'autres ont suivi aussi, et c'est vrai que le smartphone, qui était peut-être un peu moins compliqué quand même à utiliser que le Palm, et puis c'était pas deux appareils distincts, quoi. Donc nous a permis de développer ça, quoi. Mais c'est vrai que...
T'as eu quand ton premier iPhone, toi, du coup, si on parle de personnes spécifiques?
C'était... À l'époque, c'était un vieux téléphone de je sais plus chez qui. Enfin, bref, mais c'est quand une société est arrivée, c'était Bouygues Télécom à l'époque, je pense, et qui a commencé à casser les prix. Et on était en 98...
Non, pardon, je parle des smartphones, tu sais, iPhone,
Android. Des smartphones, pardon. Je sais plus, mais ça date. Je pense que c'était à l'arrivée des smartphones. Je me rappelle d'avoir eu un Palm
2008,
téléphone.
2009, quelque chose comme ça.
Ouais, dans ces eaux-là. Oui, ça a été dans les tout débuts, oui, c'est sûr.
D'accord. Ok, bah écoute, je voulais peut-être évoquer la question des DRM dans les tracteurs, qui sont très problématiques aux États-Unis, mais tu me disais que ces protections qu'imposent les constructeurs sur le fait de réparer soi-même son matériel est moins sur le devant de la scène en France, parce que vous avez besoin, ils sont tellement complexes que vous avez besoin des constructeurs pour réparer vos tracteurs de toute façon. Donc on n'est pas dans le même cas de figure qu'aux US. Je voulais le mentionner parce que c'est un débat qui revient souvent. J'ai l'impression, quand on écoute les émissions anglophones, mais visiblement, c'est moins le cas chez nous, quoi.
Oui, alors je dis pas, moi personnellement je le ressens moins, c'est vrai que je ressentirais plus la question des histoires de données dont on n'a pas trop parlé, mais de la propriété des données qui est quelque chose de très important, quoi. On parlait tout à l'heure un peu du big data, moi je sens vraiment une évolution là-dessus. Alors on va avoir aussi avec l'arrivée de la blockchain d'autres façons de pouvoir commercer, enregistrer et puis comptabiliser, j'allais dire, des transactions, à mon avis, qui vont faire évoluer aussi beaucoup l'agriculture d'ici quelques temps, parce que ça va faciliter, je pense, ces transactions et puis les aider à les sceller. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver progressivement. Mais c'est vrai que cette histoire de données, alors pour l'instant, on est...
Souci sur la propriété des données dans l'agriculture, alors?
C'est le même souci que pour tout le monde. À partir du moment où des données permettent à éventuellement, j'allais dire, celui qui en est propriétaire, de pouvoir les utiliser à bon escient, donc nous, éventuellement, bien entendu, pour gérer notre exploitation, mais elles pourraient être utilisées tout à fait par un constructeur pour savoir, cet agriculteur-là, il a acheté une moissonneuse batteuse à telle époque. Donc, je sais que je vais pouvoir aller le recontacter parce qu'il renouvelle en général tous les 3 ans. Sa machine, elle fait telle capacité. J'ai su qu'il avait plus d'hectares maintenant. Donc, je vais pouvoir aller le contacter. Voilà, bon, c'est un exemple fictif, mais qui pourrait être présent. Mais voilà, donc après, si le constructeur l'utilise à bon escient pour créer des machines qui correspondent aux besoins de l'agriculteur, ça ne me dérange pas. Mais s'il l'utilise pour pouvoir, entre guillemets, lui booster et puis le spammer pour lui envoyer un commercial, voilà, il faut qu'on se limite. Bon, je suis pas un accro de la propriété de données, et puis je pense pas qu'il faille non plus tout fermer et ne
tout verrouiller.
Voilà, je pense qu'il faut en laisser, enfin voilà, qu'il faut y réfléchir et puis bien mettre en place. Mais
la question se pose aussi dans ton domaine, quoi.
Oui, tout à fait. C'est un gros sujet parce que tout simplement, les données en agricole, c'est énorme. Un agriculteur, déjà ce que nous, voilà, on utilise en plateforme. Si je regarde sur mon navigateur, je ne sais pas combien d'anglais parce que j'utilise énormément de plateformes différentes. Voilà. J'espère que ça va se réduire après et qu'on aura quelque chose de plus concret. Mais ça, je pense que ça va évoluer avec le temps. La plateforme unique qui permet de tout faire. Mais bon, ça, c'est peut-être le rêve de tout le monde. Bon, je sais pas, mais peut-être qu'il n'en faut pas non plus, parce que sinon ça va être
trop centralisé.
Mais bon, voilà, cette histoire de données, il faut arriver à ce qu'on puisse les utiliser, que tout le monde puisse les utiliser, mais à bon escient. Voilà, donc c'est une grosse réflexion qui existe dans le milieu agricole actuellement.
D'accord. Bon, très bien. Écoute, c'est sur ça qu'on va du coup conclure notre épisode. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi pour nous expliquer un petit peu ton monde et la manière dont la tech est utilisée dans ton monde. On l'a mentionné plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous le rappeler et nous dire où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir un petit peu plus ?
Alors oui, donc vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube, donc Agriculteur d'aujourd'hui. J'ai aussi donc un site internet qui s'appelle agriculteurdaujourd'hui.com. Après, on peut me retrouver sur d'autres sites, mais bon, si vous allez sur ces sites-là, vous aurez les coordonnées éventuellement. Donc voilà, vous pouvez aller voir des vidéos. Il y en a plus de 450 actuellement, donc vous avez le choix en tapant le sujet qui vous intéresse. Voilà, betterave, carotte, pomme de terre, semis, récolte. Vous pouvez découvrir l'agriculture en long en large et en travers et dans les technologies aussi, quoi. Voilà.
C'est parfait. Bah, merci beaucoup. Donc, c'est Agriculteur d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été là. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. C'est NotePatrick partout. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu là-bas, l'émission qui parle du jeu vidéo. Et alors, si tout va bien, je ne sais pas très bien quand je vais diffuser cette émission. Normalement, ça sera à la fin mai, ce qui veut dire qu'on est juste avant l'E3. Et l'E3, c'est le grand festival, la fête du jeu vidéo. Donc, le rendez-vous jeu sera hyper actif. On aura une grosse émission où on va vous parler de toutes les nouveautés qui ont été annoncées pendant ce salon. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à ce podcast aussi. C'est le rendez-vous jeu, c'est très simple. Et puis, bien sûr, un grand merci aux Patriotes qui soutiennent l'émission, qui payent pour que l'émission existe. C'est un crowdfunding en son genre aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission aussi. Et un immense merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un épisode classique où on parlera d'actualité tech. Ciao à tous!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.